Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la Baleine. Épisode 16, une chemise dans un sac de farine, quotidien et travail domestique. On entre chez Daniel, chez Pierre ou chez Samuel. Les familles, nombreuses à l'époque, portent toutes le nom du père, figure d'autorité, au début des années 1900 et pendant une bonne partie du 20e siècle.
Nous autres, on était 6 enfants chez nous, c'était considéré comme une petite famille, là. Tu sais, les autres, c'est toutes des grandes familles dans ce temps-là.
11 enfants.
On a un peu de job aussi.
Elle devait tout le temps être en train... Vos souvenirs de votre mère, là, elle devait tout le temps être en train de travailler.
Ouais, tout le temps.
Toujours en train de faire du ménage, ouais. La cuisine.
La bouffe.
Derrière les portes des maisons du village, ce sont donc les femmes qui s'affairent, aidées très tôt par leurs nombreux enfants.
Puis, moi et mon frère Aurel, là, à chaque repas, c'est nous autres qui faisaient la vaisselle. Ma mère ne touchait pas la vaisselle. Il y en a un qui allait puis l'autre essuyait. Okay. Tout le temps. On l'aidait. Notre père n'était pas là. On l'aidait.
C'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de tâches à faire dans la maison.
Camille, notre autre frère Camille, lui, il est dans ma mère à la popote.
Ah!
Ah oui, il aimait bien ça, lui, là, faire des gâteaux, puis peut-être des tartes aussi, puis...
C'est sûr que... On aidait. On commençait à travailler jeune aussi. Mm-hmm.
Les femmes s'occupent des enfants, du ménage, de la cuisine, de la couture, d'entretenir les liens familiaux et d'aider à tout ce qu'elles peuvent. Il arrivait aussi souvent que les femmes du village quittent leur propre maison pour aller aider à l'entretien d'autres demeures contre un petit salaire. En 1936, Madame Bertha Fowler Nadeau, aujourd'hui habitante de Tête à la Baleine, mais originaire de Capsin Island à la frontière du Labrador, quitte son village à 13 ans pour travailler 3 mois dans une maison de pêcheurs à Red Bay.
When I was 12 years old, I was 13. The summer, I left home. I used to work around home in little places there. But when I left home, I went down to Red Bay, down below home, for all summer. Because he went with a man, he had a fishing for fish, and I just stayed to the house and keep the house. I used to go on stage and everything. 3 months of them.
Ce travail était payé, mais combien?
$3. $3 a month.
$3 par mois pour faire les mille et une choses relatives au travail domestique, de très tôt le matin à très tard le soir. Comme ailleurs dans les régions du Québec, le quotidien est ardu au 20e siècle, surtout dans sa première moitié. Mais à Tête à la Baleine, la rudesse de l'environnement et l'insularité amplifient la situation et nécessitent donc un surplus de débrouillardise. Elzéar Mercier témoignait vers 1970 de son enfance au début des années 1900, avant l'arrivée de l'électricité au village.
Vous autres, vous ne l'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu. Hein?
Ouais.
Moi, je l'ai vu. J'ai vu manger du pain et du saindoux. Ah, merde, l'on nous donne. Si on ne faisait pas un petit brin de chasse sur la fourrure, l'on donne. Parce qu'on mangeait. Hein? Moi, j'ai vu la pauvreté. Mais vous autres, vous ne l'avez jamais vu.
Ça, c'est vrai.
Hein?
Ça, c'est vrai.
Vous ne l'avez jamais vu.
Ceux et celles ayant grandi principalement après 1950 se rappellent aussi la débrouillardise et l'entraide dont faisaient preuve leurs parents.
Et souvent, là, c'était une coutume des gens aussi dans ce temps-là. Là, tu sais, ils échangeaient des affaires, là. Mais même encore aujourd'hui, là, ça se fait, mais plus, beaucoup plus dans ce temps-là. Ma mère, elle pourrait peut-être faire des cheveux puis dire, ben, si tu vas à la chasse quelque chose, t'es un gibier de trop, tu me l'apporteras, là, des choses de même, là. Ouais.
puis certaines familles qui avaient perdu des chiens s'aidaient avec d'autres qui allaient comme « Ok, ben moi, je vais à la chasse. Ok, ben moi, je vais te faire ton bois. » Fait que ça s'aidait comme des... ça parce que...
Il y en a qui coupaient du bois, puis là, pour d'autres, puis là, le gars allait le charrier pour lui. Mais il aidait, il échangeait de même parce qu'il n'y avait pas de chien.
C'est ça. Parce que ça coûtait cher de nourrir les chiens, là.
C'est vrai, hein? On pense
c'est,
pas à ce côté-là.
C'est ce qu'on appelait la misère.
C'est donc l'esprit communautaire qui permet à certaines familles de survivre au village. Le travail acharné et constant fait le reste. À tête à la baleine au 20e siècle, la journée des femmes commence à 5 heures si c'est la saison de la pêche pour aider les hommes à faire sécher les morues. Plus ordinairement, la journée commençait autour de 6 heures du matin. Il faut aller faire chauffer l'eau pour le lavage des vêtements et faire chauffer le poêle à bois pour boulanger le pain.
Qu'est-ce que vous vous souvenez de ça?
Mais si on fait encore notre pain, moi je fais encore. Ah oui, on fait. La plupart des gens font leur pain.
L'élément du four a brûlé. Le genre de choses qui n'arrivaient pas avec les poêles de l'époque alimentés au bois. Ces poêles dont la présence était constante dans chacune des maisons et qui arboraient différents noms tout dépendant de leur allure. Poêle à deux ou trois ponts. Poêle Saint-Georges, pour ceux avec une illustration d'un homme sur un cheval. Castor, pour les poêles plus bas.
C'était des gros poêles, c'était présent, ça faisait pour moi 450-500 litres. Ouais. Mais ça coûte longtemps. Mais...
Puis pour cuire le pain, c'était bon, ça faisait du bon pain.
Les poêles à deux ou trois ponts avaient deux usages. La cuisine, bien sûr, comme vient d'en parler Amédée Marcoux, et le chauffage de la maison.
Pensez pas que nous autres, pensez pas que j'ai été élevé sur les poêles à huile, puis j'ai été élevé sur les poêles à gaz propane, puis les poêles à électricité, puis tout, là. Moi, j'ai fait ma vie là-dessus, là. Hein? Je peux te dire, moi, j'ai fait de ma vie là-dessus. J'ai pas été élevé là-dessus, moi. Hein?
Non.
J'ai fait de ma vie sur les poêles à bois.
Ensuite, il est sorti les poêles, donc on a eu, tant qu'on a commencé à mettre du fioul, là, avec, comment dire, c'est ça, un blower, là. Puis ça chauffait tout le temps, là, tu sacrais n'importe quelle sorte de bois dedans, là. C'est sûr qu'on avait le premier ici, nous autres. C'est un blower, ça tend de flamme au fioul,
ça
là,
ça souffle dessus.
Mais si mon père, ils l'ont jamais eu, on bouchait le bois. Dans ce temps-là, tu frottais. Tu en frottais un coup et tu tombais que ça.
Quand tu dis frotter, c'est
scié. OK. Puis avec les lois de la religion, là, ben, il faut t'accepter. Puis là, c'est tout le temps. Puis t'arrêtais pas. La seule qui était prise à laver les couches, là, puis qui en avait deux ou trois aux couches, là.
Vous voulez pas un café?
Four électrique, laveuse, congélateur. L'électricité et les électroménagers changent le quotidien. L'électricité arrive au village d'abord au presbytère et à l'église grâce à une génératrice, puis au couvent du Saint-Rosaire, qui était aussi l'école en 1956. Graduellement, l'électricité entre dans les maisons du village vers la fin des années 1960. Amédée Marcoux témoigne de l'impact de ces changements, surtout sur les femmes.
Hein? Les femmes, dans ce temps-là, là, ils ont vécu la vie plus dure que les femmes d'Astère, ils travaillaient-tu plus? Ou...
Mais c'est attendu de travailler plus. À cause au jour d'aujourd'hui, tu vas pas dans une maison, ils ont plein l'or sur le plancher. Ils sont tous peinturés partout. Ils ont l'électricité. Ils ont quasiment tout ce qu'il faut. Faut pas travailler dur. Ils ont des laveuses. La mienne n'en a pas, la sienne est brûlée. Ils ont des laveuses. Et puis ensuite, des poils d'électricité. Et puis la lumière. Mm-hmm. Ils n'ont pas la peine de nettoyer le lampe à tous les soirs. Et puis, arranger ça pour le soir, pour allumer, mettre le charbon dedans.
Combien de personnes au village se rappellent ainsi leur mère, concentrée, se brisant les yeux à fabriquer des bottes de loup marin le soir à la lueur des éclairages de fortune avant l'arrivée de l'électricité dans les maisons?
Moi, je me souviens, ma mère, elle faisait des bottes de loup-marin, en peau de loup-marin, là. Elle faisait des bottes de...
loup-marin,
une peau spéciale. Ça, je me souviens d'avoir vu en faire, des bottes de loup-marin.
Dans le quotidien, la débrouillardise était à l'honneur. On le constate dans la réutilisation de ce qu'on a sous la main pour fabriquer des outils de tous les jours, comme les plumas, un terme qui désigne un genre de plumeau local fait de plumes d'outarde, ou encore les vêtements et les linges.
Je me rappelle, il y a eu des années où la farine venait dans des sacs carottés.
Oui.
Ah oui?
Carottés. Puis, on avait une femme, là. Elle était pas mal bonne dans la couture.
Elle faisait des chemises.
Puis elle faisait des chemises. Moi, j'en ai porté de ces chemises-là.
Ouais. Avec des sacs de farine.
Oui.
C'est carotté, ça, ils faisaient des chemises. Même les sacs blancs, là, aussi, ça, ils faisaient bouillir ça dans le castique pour enlever les écritures et tout ça. Là. Ils faisaient des linges à vaisselle avec ça.
Ouais.
Mais oui.
Avec ça, c'était un autre sorte de sac de farine.
Oui, c'était des sacs blancs.
Les sacs blancs, là.
Blancs, puis là, ben, c'est écriture Robin Hood ou... Ouais, en tout cas, il y avait des écritures.
Si on se promenait au village dans ce temps-là, au moment où le linge venait d'être lavé, on pouvait voir des vêtements étendus dehors, sur la brousse ou sur une ligne, tendus entre deux poteaux de bois. Il y en avait aussi un peu partout à l'intérieur des maisons, pendant l'hiver. Ces vêtements qui, pendant longtemps, étaient confectionnés par des femmes d'ici.
Mais dans le temps aussi, ils faisaient le linge pour les enfants. T'avais pas du linge que t'achetais du magasin, là. Ben, de toute façon, il n'avait pas de magasin de linge. Il n'en a pas encore, là, mais en tout cas. Je veux dire, moi, je me souviens, ma mère me faisait mes robes, elle avait du matériel, puis les plus jeunes, ben, ils usaient mes robes, puis il y avait trois autres filles après moi. Dans ce temps-là, ils faisaient pas mal tout le linge.
Et ils commandaient leur tissu, ou...
Oui, mais il y avait du tissu où ils faisaient ça dans du plus... Par exemple, comme dans du linge plus grand, là, qui taillait dedans, là.
Ces vêtements de seconde main étaient parfois donnés ou achetés, en échange de poissons, par exemple, et provenaient notamment de la mission Grenfell de Harrington Harbor. Pendant un certain temps, il y avait même un magasin où on pouvait se procurer des vêtements usagés.
Puis là, ça servait, on appelait ça le magasin du frère là. Je vendais des bonchets. Mon premier coat que j'ai eu pour aller voir les filles, moi, ça a été un coat que ma mère avait acheté là, puis elle me l'a fait.
Là, moi aussi, j'avais un manteau que Vendel avait porté. Maman l'a viré à l'envers.
J'étais content, mais elle a pris le modèle. Maman travaillait bien.
C'était beau comme
ça. Bon, ben là, c'était
là. Tu sais, c'est pas changé de couleur.
Mais avant ce temps-là, à quoi ressemblait l'habillement? C'est justement une question qui avait été posée à Amédée Marcoux et Samuel Anderson en 1972, qui répondent avec une pointe d'humour.
Dans ce temps-là, là, pour les billes, là, c'était comment que le monde s'habillait? Là, c'était...
Mais le monde s'habillait comme il pouvait. Mais je te dirais bien, ordinairement, l'habit de la semaine, là, c'était habillé en toile. La toile blanche ou la toile bleue.
Ça, c'était fabriqué par les femmes, ça, je suppose.
Ah, ils faisaient le linge de femmes, les femmes, c'est attendu. Seulement la toile, ben, il y a ce sort de magasin.
Puis, pour dimanche, c'est quelle sorte de ligue vous mettiez?
Ben, dimanche, des fois, il y avait... Des fois, ils faisaient du linge pour le dimanche, même.
Les femmes, eux autres, ça s'habillait... La mode dans ce temps-là, c'était-tu long ou court?
Non, c'était pas mal long.
C'était long.
Ouais. Pas mal long. À ce temps-là, tu voyais pas vision.
Puis,
On portait des bonnes laines.
Ouais.
On portait du linge dessous. Il appelle ça du linge ouaté.
Ouais.
Il appelle ça du tambour, mais c'est pas plus tambour que quoi ce qu'on avait dans ce temps-là. Puis, pour des culottes, c'est des culottes de toile, des culottes de stuff. Macada, pour l'hiver.
Pourquoi?
Des bottes pour le marais. Ils ont des bottes dures, là. Même des bottes de cowboy à star.
Vous aviez des culottes en dessous des culottes de toile? Vous aviez des culottes de toile?
Hein?
En dessous des culottes de toile?
Par l'air, je ne savais pas ce qu'il y avait là.
En dessous des culottes de toile blanche, vous aviez d'autres culottes?
Bon, on l'appelait ça des caleçons, hein. Il y a l'homme, dans le temps, je travaillais, là. Puis l'homme qui va avoir sur le tambour, je vais avoir prêt en fond de ses culottes, mais il est prêt, mais il te répond. Ouais. Parce que moi, je ne suis jamais dans mon linge. Puis lui, dans ce temps-là, s'il va suer.
Ouais.
m'en prendre un bon sweater de laine, puis une bonne sac de toile, avec un bon capuchon. Puis une bonne paire de culottes macana, puis de la toile par-dessus. Viens-t'en, viens le faire geler. Puis des bonnes bottes de peau de marin, là. Et c'est ainsi, bon.
Le lavage des vêtements se faisait alors dans une cuve en bois ou en galvanisé, avec une planche à laver et du savon, composé en partie de graisse animale fondue, par exemple la graisse de loup marin.
Je me souviens, j'étais bien jeune d'avoir vu ma mère en faire, mais je ne peux pas dire, là. Mais c'est qui sauva ça, du gras, là. Comme bouillait du bœuf, là, dans le temps, là, c'était de la viande salée, là, il cuisait du bœuf, là, mais salé, là, puis il ramassait de la comme du gras sur. Il sauva ça pour faire du savon. Ça, je me souviens de ça.
Mais tu sais, je sais pas si tu sais c'est quoi les castis.
Non, mais j'en entends
c'est
parler.
C'est fort. C'est comme des affaires. C'est sec, là. C'est comme des petites.
Ah, je sais pas. Que...
Ils faisaient bouillir ça là-dedans, là.
Mais il y en a qui faisaient du savon avec du castis.
Oui. Ils faisaient le savon jaune pour laver le linge, là. Parce qu'il avait à la planche, en même temps. Fait que ça prenait du savon. Fait qu'ils faisaient le savon avec ça.
Nous autres, on appelle ça des poursies. Mais c'est des petits dauphins, c'est comme des dauphins, c'est un dauphin, là. Ah oui! Puis, ils prenaient le gras de ça. Ils faisaient ça avec ça. Ils appelaient ça du savon de lessive.
Du savon de lessive, ouais.
Ouais. Fait que ça, c'était pour la lessive.
Ouais. Ben, c'est probablement pour ça, le nom. Ouais. Je sais pas, là.
La cuve utilisée pour laver le linge servait aussi aux gens à prendre leur bain avec du pain de savon, un savon d'odeur qui servait pour le corps, les cheveux, mais aussi pour laver les planchers, ce qui se faisait armé de brosses de tout genre.
Ils frottaient les planchers...
C'est plus que ça, nous autres, hein?
Ils frottaient avec du sang.
Et dans ce temps-là, là...
Des branches de sang, ça, c'était avant ma mère et eux autres, là. Mais ils ont lavé leurs planchers avec des branches.
Parce que c'était comme un genre de brosse.
Ça faisait comme un genre de brosse. Ça avec sent... le savon castique qu'il y avait, là. Ça blanchissait tout.
Mais après ça, ben il y avait des brosses à plancher qui appelaient, là. Mais dans ce sens-là, c'était tous des planchers de bois, mais c'était pas. Ils étaient obligés de s'amener que les gens n'enlevaient pas leurs bottes, puis ça.
Non.
Puis il était un temps, ici au village, à la Tordelaise, t'avais pas de gravel ni de sable sur les chemins. C'est quand ils mouillaient, c'était de la glaise.
Alors, on mangeait beaucoup de brin ici.
Elle te collait sur les bottes, puis tu rentrais ça dans les maisons. Mmh.
Le printemps, on mangeait du brin ici, chez les terrains.
Okay.
Parce qu'en avant-mars, il y avait des moulins partout.
Ça, c'était un moulin.
Puis, tu sais, on mettait ça, c'était plus propre.
Une enseignante, Mme Franck Misson, venue à tête à la baleine en 1922, fait le récit de son arrivée dans une maison du village. La jeune femme se met rapidement à l'ouvrage dans le logis, puisque dès son arrivée, il faut nettoyer les dégâts de terre et de sable sur le plancher de toutes les chambres où les hommes avaient étendu des patates fraîchement arrachées pour les faire sécher et les préserver du gel du dehors. Les coups de balai vigoureux suivis des coups de brosse au plancher furent nécessaires. Le lavage des planchers était effectivement une tâche récurrente dans le quotidien des femmes, surtout avant l'arrivée de la peinture ou du prélard dans les maisons.
Le plancher, il n'y avait rien sur le plancher.
Le plancher, il y a rien, tout le plancher était blanc. Et des fois, il y en avait qui peinturaient. Je suis sûr que j'étais capable d'avoir de la peinture peinturée, mais j'en ai vu en masse, moi. C'était blanc. Et puis, les femmes, là, ça gardait ça blanc, là. Pareil, comme ça mettait du gros nœud.
C'est
meilleur,
ces femmes, dans ce sens-là.
Ouais, ils se mettaient à genoux, puis il y avait le
brosse
à plancher, puis
ici,
c'est au brosse.
Ils
n'étaient
pas paresseuses comme nous autres,
le stade serait noir. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai vu au passage d'hiver, la bonne femme, Alphonse Mercier, là. Elle, son plancher, elle allait là quand tu voulais, t'aurais pu le licher. J'avais dit ça, c'était blanc.
Le quotidien tête à la baleine, c'est aussi l'accès à l'eau potable. Au large comme au village, il s'agissait là d'un enjeu.
C'est une petite île, l'île Viard, qui est là. Il n'y avait même pas d'eau potable là-dessus. Nous autres, on allait sur l'île Canté. On traverse d'ailleurs, là. On traverse à chercher l'eau potable sur l'île Canté.
Au village, on dit de l'eau dans les années 1950 et encore quelques décennies plus tard qu'elle a la couleur du jus de pomme.
Peut-être la plus grosse difficulté, c'était l'eau, parce que l'eau était très foncée. Là. Je sais pas si ça s'est arrangé, mais ça, c'est ce que tu vois, on n'avait pas beaucoup d'eau chaude non plus. C'était peut-être les deux choses qui pouvaient être plus difficiles, parce que les sœurs ramassaient l'eau de pluie pour faire le lavage, puis parce que nos vêtements devenaient ternis à cause de ça.
À tête à la baleine, le peu de moyens dont disposaient les gens, additionnés à l'isolement du village, font qu'on retrouve souvent dans les discours d'autrefois les termes misère et pauvreté. Ces conditions furent vécues, mais aussi surpassées par les gens d'ici. Cet épisode, c'est un peu un hommage aux hommes et surtout aux femmes qui s'affairaient au travail domestique. La débrouillardise à tête à la baleine a pris tour à tour les visages de chemises cousues dans des sacs de farine, de lessive à l'eau de pluie et au savon à la graisse de loup marin, et de brossage de plancher aux branches de sapin. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Sœur Hélène Côté, Robert Nadeau, Bertha Fowler Nadeau et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Vous avez aussi entendu des extraits de cassettes enregistrées sous l'initiative d'Yves Gravel dans les années 1970 et dont certains audios ont été optimisés par les productions du Garde-robe. Un merci spécial à Lisette Monger de nous avoir partagé ses trésors et à Alain Vallière de nous avoir aidés à les valoriser. Pour des informations complémentaires ainsi que des photos d'archives, rendez-vous sur le site web de la radio CJTB sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».